Je voudrais lire dans l'épître aux Hébreux encore. Alors, à la suite de ce que nous avons lu ce matin, il est question du Seigneur ayant Luc 5, verset 9, ayant été consommé, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel, étant salué par Dieu, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est inexpérimenté dans les paroles de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. C'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des ablutions, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Chapitre 7. Chapitre 6, verset 19. Nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée, laquelle nous avons comme une ancre de l'âme sûre et ferme, et qui entre jusqu'au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur pour nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Car ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout, premièrement, étant interprété roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à perpétuité. Mais considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin, lui le patriarche. Verset 9. Verset 8. Ici, des hommes qui meurent reçoivent des dîmes, mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu'il vit, et pour ainsi dire, les vit lui-même qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla au-devant de lui. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi, quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se leva, selon l'ordre de Melchisédek, et qu'il ne fut pas nommé selon l'ordre d'Aaron. car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi, car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché à l'autel, car il est évident que notre Seigneur a surgi de Juda, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant des sacrificateurs. Et cela est encore bien plus évident si, à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur se lève, qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage, lui, est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Citation du psaume 110. Citation qui est reprise au verset 21. Et puis nous lirons dans la Genèse au chapitre 14. Chapitre 14. Nous lirons seulement les versets 18 à 20. Verset 17. Et comme Abraham s'en revenait après avoir frappé Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut, et il le bénit. Et dit, béni soit Abraham, de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes, prends les biens pour toi. Et Abraham dit au roi de Sodome, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, si de tout ce qui est à toi, je prends quoi que ce soit. Dans ces versets, nous sommes frappé par le fait que donc l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est très certainement l'apôtre Paul, développe beaucoup de choses de l'Ancien Testament et montre comment elle nous parle, comment elle s'applique à nous. Et on a donc le début du chapitre 5 concerne donc le Seigneur comme souverain sacrificateur. Et puis ce qui est l'une des dignités du Seigneur, c'était, disons, que l'Épître aux Hébreux s'adressait à des gens qui déploraient d'avoir perdu le culte judaïque, la beauté, les grandeurs, les privilèges du culte judaïque, et qui avaient le sentiment d'être dépouillés dans le christianisme. Et cette épître est là pour montrer que, bien loin d'être dépouillés, ils avaient au contraire les choses meilleures, les choses plus excellentes. Et alors le chapitre 5 débute par la présentation de du fait que Christ est glorifié comme souverain sacrificateur. Alors, en apparence, on ne voit pas ça dans les évangiles, on ne voit pas non plus d'onction du Seigneur qui, comme l'onction d'Aaron et des Lévites, dans les chapitres 8 et 9 de Lévitique et des Nombres, on ne voit pas des onctions du Seigneur. Mais il est déclaré positivement que, verset 5, le Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi je t'ai aujourd'hui engendré, et puis ensuite tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. » Donc cette épître montre que même s'il n'y a pas d'onction apparente, même s'il n'y a pas de séance de nomination du Seigneur comme souverain sacrificateur, néanmoins il l'est. Mais il l'est selon l'ordre de Melchisédek, ce qui veut dire que c'est un sacrificateur différent, d'une nature différente, d'un ordre différent de ceux qui existaient dans ce culte judaïque. Et alors, la question de la sacrificature de Christ est développée, notamment, plus spécialement, dans les chapitres 7 à 10. Mais préalablement, il commence par dire, selon les versets que nous avons lus, donc tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mais qui est ce Melchisédek? Qu'est-ce qui vient faire dans la sacrificature de Christ? Et il dit au verset 11 de chapitre 5, nous avons beaucoup de choses à dire et à expliquer. Mais pour qu'on vous les explique, et il faut commencer par écouter, et puis il faut commencer par ne pas être paresseux à écouter. Alors, d'un côté, il dit que c'est des choses difficiles à expliquer. En fait, d'un côté, il en est ainsi, mais c'est puisque vous êtes devenus paresseux à écouter, parce que, disons que les choses sur la sacrificature de Christ dans les Hébreux ne sont pas extraordinairement difficiles à comprendre. Mais il faut avoir quand même ce désir d'écouter ce que dit la parole. Et alors, il y a ces exhortations des versets 12 à 14 qui sont très frappantes. Vous devriez être des docteurs, vu le temps. Alors, on dira, oui, mais il est dit dans l'épître de Jacques de ne pas être beaucoup de docteurs. Ouais, l'épître de Jacques dit cela plutôt dans le sens de tous ceux qui parlent, tandis que là, il est question de ceux qui écoutent, qui savent, qui connaissent. Et combien c'est frappant de voir que cette exhortation, on comprend que vous devriez être des docteurs, on comprend que c'est une parole qui dit que la normale, ça devrait être d'avoir une connaissance approfondie de la parole. Docteur, c'est celui qui enseigne, mais c'est docteur dans le sens de celui qui enseigne, mais celui qui enseigne, il faut qu'il aille lui-même commencer par apprendre. Et la parole de Dieu est riche, mais elle est extrêmement riche, même très très riche, mais elle n'enseigne pas comme les les livres comme les livres des hommes et encore moins comme les livres que nous avons en France. La parole de Dieu, on a l'exemple typique de cela dans les évangiles où il y a des récits qui sont faits, ce que le Seigneur a fait, comment il a été trahi par Judas, comment il a établi la scène, comment il a envoyé des disciples pour préparer la Pâque, comment Marie a fait, juste avant cette Pâque, Marie a fait l'onction de nard pur. Et puis on a le récit de Gethsémané, et puis de la reniement de Pierre. C'est des récits, les uns après les autres, et on dirait, mais cette manière d'enseigner, et il faut que nous saisissions combien cette manière d'enseigner, c'est pour nous aussi, ça implique que nous ayons à cœur d'apprendre, à cœur d'écouter, à cœur de comprendre les récits, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors on voit Marie, un cœur dévoué, qui a l'intelligence que le moment de la sépulture de Christ est venu. Elle seule l'a eu, elle avait été au pied du Seigneur. On a aussi le cadre dans lequel la croix eu lieu, où on voit d'une part donc des quelques âmes dévouées comme Marie, mais un cadre physique misérable, puisque la scène de l'onction de Béthanie, en fait, elle a eu lieu dans la maison de Simon le lépreux. Elle n'a pas eu lieu dans un lieu bien glorieux. Et puis, il y avait parallèlement les sacrificateurs avec les scribes, et puis donc Judas, qui ont fait des plans pour mettre à mort le Seigneur. Et voilà le chemin du Seigneur. Chemin du Seigneur qui, à la fois, et on voit sa divinité quand il dit aux disciples comment apprêter la Pâque, en indiquant comment il trouverait celui chez qui la chambre haute prête pour que eux apprêtent la Pâque. Et on voit on voit là sa divinité, on voit son abaissement, où il se dans cette maison de Simon le lépreux, on voit son humanité, où il se laisse faire, il se laisse trahir, il se laisse renier. On le voit selon les expressions que nous avons dans Hébreux 5, qu'on ne trouve pas dans les évangiles, mais qui sont là, où il est question de ces grands cris, de ces larmes, de ces prières, supplications. Voilà, mais ces choses sont écrites pour que nous les sondions, pour que nous méditions qu'est-ce qu'il y a derrière cela, qu'est-ce qui faisait souffrir le Seigneur, quel était le fait de porter le péché, qui était un sujet d'angoisse pour lui, angoisse qui a généré la scène de Gethsémané. Et alors, il y a ainsi beaucoup de choses à expliquer pour montrer que ces simples récits ne sont pas simplement des récits, ils ont une portée profonde pour nous montrer les pensées de Dieu, pour nous montrer les caractères du Seigneur, les montrer pour que nous y entrions, bien sûr pour l'adoration, pour le culte, mais c'est pas seulement, c'est pour toute la vie chrétienne, parce que nous avons à imiter ce Seigneur. Mais encore une fois, la condition préalable, c'est de ne pas être paresseux à écouter. Si on est paresseux à écouter, c'est fini, on ne comprendra rien à toutes ces choses. Et puis alors, ce n'est pas seulement une question d'être docteur, enseignant. On voit qu'il est dit, mais vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Bon, il y a le premier de tous les rudiments pour nous, c'est bien crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, quelque chose d'important. Mais la parole est claire qu'il ne faut pas en rester là, il faut avancer. Et alors, il dit bien, fin du verset 12, vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Alors, bien sûr, ils avaient besoin de nourriture comme la nourriture solide, mais comme ils n'étaient pas en mesure de l'assimiler, c'était que du lait qu'il fallait. Et alors, on a ce verset 13. « Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. » On dit, mais qu'est-ce que vient faire la justice là-dedans, puisque il est question simplement d'écouter, d'être paresseux et de choses qu'on a à expliquer. Mais alors, c'est extrêmement frappant de voir le lien que la parole fait entre ces choses que l'on n'a pas voulu écouter, et du coup, on n'est pas instruit dans la parole de la justice. Bon, la parole est immense au point de vue de son contenu, de sa portée, mais là, c'est cet aspect de parole de la justice. Et alors, la pensée est précisée dans le verset 14. La nourriture est pour les hommes faits qui, par le fait de l'habitude, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. Alors, on voit que nous sommes dans un monde où il y a une difficulté à discerner le bien et le mal. Nous avons la charge de le faire, il faut le faire. Mais il faut discerner, ça ne saute pas aux yeux. Et puis, ce verset nous montre en outre que ce discernement implique d'avoir l'habitude de le faire et d'avoir des sens exercés à ça. Ça vient pas tout seul, ça vient pas, c'est pas évident, et c'est le propre des hommes faits, autrement dit des adultes. Adultes dans le sens spirituel, moral. Parce qu'on peut être adulte physiquement et être qu'un petit enfant spirituellement ou moralement. Alors on a ce fait, ce qui est très frappant de voir que non seulement donc l'apôtre reprochait de rien savoir sur Melchisédek, mais en plus il leur dit mais de toute façon vous ne pouvez même pas discerner le bien et le mal parce que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas les sens exercés à discerner, vous n'êtes que des petits enfants, il faut vous nourrir de lait. Et c'est à la fois un avertissement, à la fois un enseignement extrêmement solennel, mais étonnant, parce que nous n'aurions pas eu a priori la pensée de lier la connaissance sur Melchisédek avec les sens, avec le fait de discerner le bien et le mal et d'avoir les sens exercés à ça. Alors, au fond, comment ça se fait que aussi encore que ces choses soient dites à l'égard de Melchisédek? dans, j'ai lu les passages de la parole qui parle de Melchisédek dans Genèse 14. Bon, il y a aussi le passage de Psaume 10, mais je crois que, sauf erreur, il n'en est pas question de Melchisédek ailleurs. Et le psaume 10 déclare, le psaume 110 déclare simplement que tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui est cité, appliqué au Seigneur, et qui est cité donc dans cette épître aux Hébreux. Alors, dans Genèse 14, quand on regarde bien, donc il y a tout un récit, mais sur Melchisédek, il n'y a que trois versets, ce qui est vraiment, vraiment peu de choses, et on pourrait avoir de la peine à comprendre et se dire, mais attends, comment ça se fait que ne pas savoir grand-chose sur ce Melchisédek, il n'y a que trois versets, on ne peut pas savoir des montagnes, puisqu'il n'y a que trois versets. Alors comment ça se fait que si on ne sait pas ça, ben, on n'a pas les sens exercés à discerner le bien et le mal, on n'est qu'un petit enfant qui a besoin de l'aide. Donc il y a un contraste des choses qui est assez extraordinaire. Mais et, alors, ce chapitre 14, qu'est-ce qu'il montre? Il montre que, alors c'était, il est parlé de tout le début d'une grande guerre. Alors il y a des guerres dans lesquelles, je ne sais pas si l'histoire profane raconte grand-chose sur ces choses-là, on voit quatre rois qui en combattent contre trois autres. Il y a donc certainement c'était des petits royaumes, mais enfin il y avait des batailles acharnées, les uns qui dominaient les autres. On voit une destruction de, il frappe verset 7, la contrée des Amalekites. On voit qu'il frappe les Amoréens, le roi de Sodome. On voit ceux qui se battent contre eux. On voit ceux qui tombent dans les puits de bitume. Ces puits de bitume, c'est peut-être déjà à l'avance une annonce du rôle du pétrole dans cette région-là, mais où les uns fuient, les autres cherchent à les prendre, je passe. Et en fait, à la fois je passe, mais c'est des choses dont, effectivement, le détail ne semble pas avoir beaucoup d'importance, mais on voit les troubles des nations. On voit les nations qui se disputent, qui sont en conflit permanent, et c'est bien ce que nous voyons aussi ici. Et puis, alors, il y a cette affaire que dans toute cette bataille, voilà qu'il y a Lot qui se fait prendre. Alors, Lot ne s'était pas engagé dans la bataille, il en était resté à part, mais il était à Sodome. Et alors, quand ceux du verset 11 ont pris tous les biens de Sodome et Gomorre, verset 12, ils ont pris aussi Lot. Alors voilà qu'il y a tout un développement qui est lié à cette affaire que Lot a été pris et puis qu'il a été délivré. Alors, on est déjà frappé dans cette affaire de voir comment, du point de vue de la parole de Dieu, ce qui est des conflits énormes avec plein de gens qui se bataillent, qui se guerroient les uns des autres, qu'est-ce qui a été important dans tout ça? Ben, le fait qu'il y ait un croyant qui a été pris, qui a été pris là-dedans. Un croyant qui n'était pas très brillant, puisque le reste de le contexte de Lot à Sodome nous montre bien qu'il a fallu même qu'il en soit retiré par force par des anges. Et puis il était le rôle qu'il avait positif qu'il avait désiré jouer à Sodome avait été réduit à néant. Mais pourtant la parole de l'épître Pierre dit que c'était un juste, un vrai croyant. Et voilà que effectivement Abraham va le délivrer. Alors Abraham va le délivrer, c'est d'autant plus étonnant que dans le chapitre 13, Lot se trouvait, c'est volontairement qu'il se trouvait à Sodome et Gomorrhe. Et on savait, c'est le chapitre 13, verset 13, que les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Alors, il était, Abraham aurait pu dire, ben, tant pis pour lui. Il a bien cherché ce qui son affaire d'être pris dans Sodome. Il a ce qu'il mérite, et tant pis pour lui, je le laisse. Et alors on a effectivement ce récit qui où on voit Abraham prendre une petite troupe, aller délivrer Lot, le ramener, et puis alors déjà ce récit nous montre l'importance qu'un croyant peut avoir aux yeux de Dieu, l'importance de savoir ce qui compte au travers de tous les bouleversements du monde, les hommes comptent les millions de morts qu'il y a eu pendant les guerres mondiales, mais du point de vue de Dieu, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il en a été des croyants. Et alors, on a ces versets sur Melchisédek. Abraham revient, il a récupéré non seulement Lot, mais récupéré des biens. Et puis on a ce Melchisédek. Alors, il est simplement dit roi de Salem. Salem, on ne sait même pas où c'est, qu'est-ce que c'était cette ville. Il fait apporter du pain et du vin. Il n'y a pas de grands trésors et de choses extraordinaires. Bon, il était sacrificateur du Dieu très haut. Comment ça se faisait qu'il était sacrificateur? Comment ça se faisait qu'il avait été nommé? Il y a une révélation de Dieu donnée à Abraham. Il n'est pas dit que c'était cette révélation qu'il avait eue. Finalement, en apparence, on ne sait rien. Et là, on dira, mais attends, comment ça se fait qu'une histoire sur un Melchisédek dont on sait pratiquement rien, c'est cela que la parole vient reprocher d'ignorer. Mais c'est pas pour rien que ces choses-là se sont dites. On voit d'ailleurs, alors on a un éclairage à ce sujet dans le chapitre 7, verset 3. Je dis cela parce que c'est très frappant. La première chose, on a dans des correspondants de cours bibliques, on a de façon régulière et très, très courante et classique la question qui consiste à dire, mais ce Melchisédek, c'était c'était quoi? C'était un vrai homme? C'était une figure? C'était quoi? Et puis qu'est-ce que c'est ce monsieur qui n'a pas de mère et pas de père et pas de mère et pas de commencement de jour ni de fin de vie? Alors, la plupart des gens ne comprennent rien à cela. Mais alors, En fait, c'est pourquoi il est dit ces choses dans ce chapitre 7, verset 3, sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu. Alors en fait, ce verset est très significatif de la manière dont Dieu parle, dont Dieu enseigne. C'est-à-dire que Melchisédek était un vrai homme, et je dirais un homme normal comme chacun de nous, mais quand il est dit sans père, sans mère, sans généalogie, c'est la manière dont la parole le présente, dont la parole en parle. Elle en parle donc dans ce Genèse 14, verset 18, où on voit « Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » Alors, effectivement, il n'est pas parlé qu'il ait eu un père, il n'est pas parlé qu'il ait eu une mère, il n'est pas parlé du début de sa vie ni de la fin de sa vie, mais l'Esprit Saint, ou l'apôtre Paul, comme on voudra, écrit ces choses pour dire, ben voilà, le texte de Genèse 14 dit ces choses sur Melchisédek, et au fond, c'est une image du Fils de Dieu. Il est assimilé au Fils de Dieu, et le fait qu'il ne soit pas parlé de son père, pas parlé de sa mère, pas parlé de sa généalogie, eh bien, c'est cela qui caractérise le Seigneur, le Fils de Dieu. Pas de père au sens de père qui engendre, pas de mère qui engendre également, pas de commencement de vie, parce qu'il est Fils éternel, pas de fin de vie, parce qu'il est mort, certes, mais il est ressuscité, et ainsi. Et puis, alors, roi de Salem. Alors, Salem, il semble que c'est donc le sens hébreu du terme qui est paix, c'est le shalom, le paix vous soit. Et il est. Mais cette expression, roi de Salem, n'est pas rattachée à un lieu quelconque, à une ville, à un village quelconque. C'est interprété comme étant. Roi de paix, c'est Hébreux 7, verset 2. Mais roi de paix, et simultanément, il est dit roi de justice. Alors, expression, alors on dit, mais d'où c'est que ça sort, ça, roi de justice? Bien, c'est le fait que il est, au fond, il est roi de paix. C'est le fait qu'il vient bénir Abraham, qui, pour Dieu, c'était lui le juste, dans les batailles des hommes de Kedor Laomer, Sodome et Gomorre, tout ça, il n'y avait pas de juste dans tout ça. Il n'y avait qu'un juste, vraiment, Abraham et Lot dans une mesure. Et lui, roi de Salem, il était ainsi. Roi de justice, parce qu'il y avait dans son être, dans son occupation, c'était la paix et la justice. Et puis, alors, on voit que, donc, il y a ce détail qui est donné dans Genèse 14, fin du verset 20, et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est même pas une ligne entière qui nous dit cela. Alors, si quelqu'un lit le texte de la Genèse, il aura tendance à dire oh, pas très important tout ça. Et la parole n'insiste pas, elle ne dit pas de combien c'était la dîme, elle ne dit pas l'immensité des richesses en question, elle ne dit pas ce qui en a été fait, elle ne dit rien. Elle dit « donna la dîme de tout ». Mais alors, on voit la parole qui, dans l'Épître aux Hébreux, qui tire de tous ces symboles une immensité d'enseignement, en disant « mais c'est ce Melchisédek, il est sacrificateur, mais sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire c'est un Dieu qui est connu dans une mesure. Il a une dignité extraordinaire parce qu'il est capable de bénir à Abraham. Et puis il a le seul fait qu'il reçoive la dîme de la part d'un Abraham montre que c'était un personnage excellent. C'est Hébreux 7, verset 7, le moindre est béni par celui qui est le plus excellent. Et alors que pourtant Abraham, il est bien dit, Hébreux 7, verset 6, c'était celui qui avait les promesses. Voilà, quand on lit la Genèse, on s'aperçoit qu'effectivement, Dieu a balayé le monde par le déluge, et puis il y a eu toute l'affaire de la tour de Babel, et Dieu qui réinstaure une nouvelle classe d'hommes mis à part avec Abraham, va-t'en de ton pays et de ta parenté au lieu que je te dirai, il se réserve des hommes pour lui, une famille pour lui. Il avait les promesses. Alors on voit combien ce sont tout des choses qu'il faut méditer et peser. Comment ça se fait quelle était l'importance d'Abraham? Pourquoi il avait ses promesses? Quelle était cette origine? Pourquoi il a été se battre contre Sodome? Pourquoi un sacrificateur a été au-devant de lui? Pourquoi le fait que ce Melchisédek dont il est dit presque rien, pourquoi ça devient un type du Seigneur? Et non seulement du Seigneur, mais du Seigneur comme souverain sacrificateur. Et comme Moïse a établi des autres souverains sacrificateurs de la tribu de Lévi, comment ça se fait que Dieu ait institué une nouvelle sorte, nouvel ordre de sacrificature avec Melchisédek et des sacrificateurs, verset Hébreux 7, verset 16, établis selon la loi d'un commandement, non pas établis selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Et alors on a ce sacrificateur qui, il est dit qui demeure pour l'éternité, et puis s'il est sacrificateur selon un nouvel ordre, c'est qu'il y a une alliance nouvelle d'autant meilleure. Hébreux 7, verset 22, c'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Et alors on voit toute cette sacrificature qui est, chapitre 7, verset 25, elle est capable de sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ce que les anciens sacrificateurs ou souverains sacrificateurs étaient parfaitement incapables de faire. Et ils intercèdent, il est plus haut que les cieux, il n'a pas besoin pas besoin de faire des sacrifices pour lui-même. Et puis finalement, chapitre 8, verset 1, il est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, et il intercède pour nous. Alors, ce qui frappe dans toutes ces choses, c'est de voir non seulement la sobriété de ce qui est dit dans la Genèse, il n'y a que trois versets, mais ce n'est pas même une sobriété, c'est volontairement que l'Écriture a dit très peu de choses sur Melchisédek. Mais le fait qu'il en ait dit très peu de choses, et le peu qui en est dit, voilà que ça permet, dans l'Épître aux Hébreux, par l'Esprit, mais l'apôtre Paul certainement, de développer toute une pensée extrêmement riche sur la sacrificature de Christ, qui est différente de l'ancienne sacrificature. Et cette différence introduit un ordre de choses nouveau. C'est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, peut-être que pour nous, on dit la différence entre l'Ancien et le Nouveau est évidente. En réalité, quand on a affaire à des âmes de tous ordres et de tous milieux, soit en Afrique ou dans des cours bibliques, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à comprendre la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, on a des doctrines, ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance, qui passe de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance en disant que simplement ça a changé, mais que c'est tout pareil. Mais on voit, je ne m'appesantis pas sur les erreurs qui traînent partout dans la chrétienté, mais on voit simplement l'importance que de fait d'avoir médité ces choses qui sont dites, peu de choses dans Genèse, mais des choses qui ont une portée profonde, qui sont développées, et des symboles et des types de la personne du Seigneur. On ne comprend pas, si vous êtes paresseux, écoutez, résultat, pas de sens pour discerner le bien et le mal. Toutes ces choses, c'est la parole de la justice. Eh bien, quand nous voyons ces avertissements, ces exemples, ces symboles, cette richesse de la parole, eh bien, qu'il nous soit donné d'être plus zélés pour écouter, pour méditer, pour approfondir la parole de Dieu. Mais, chers jeunes gens qui êtes ici, il faut commencer très tôt, parce qu'il y a beaucoup de choses.